Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire lus par leur auteur. Aujourd'hui, Monte Cristo de Martin Suter aux éditions Bourgois.
Je suis venu avec un Américain bien tranquille de Graham Greene. Chapitre 1. Après le dîner, assis dans ma chambre de la rue Catina, j'attendais Pyle. Il m'avait dit « Je serai chez vous à 10 heures au plus tard ». Quand minuit eut sonné, je ne pus plus rester immobile et je descendis dans la rue. Un groupe de vieilles femmes en pantalon noir était accroupi sur le palier. On était en février et je suppose qu'elles avaient trop chaud pour regagner leur lit. Un conducteur de cyclopousse pédalait lentement en direction des quais du fleuve et j'apercevais des lampes allumées à l'endroit où l'on avait débarqué la dernière livraison d'avions américains. Pas le moindre signe de Pyle dans la longue rue. Un Américain bien tranquille de Graham Greene. Graham Greene est un grand écrivain sous-estimé. Il aurait dû gagner le prix Nobel, je trouve. Et c'est une très belle histoire, plein de suspense et plein d'atmosphère. Je l'avais lu pendant que j'écrivais Monte Cristo, quelque chose que normalement je ne fais pas, lire un autre roman pendant que je travaille à un propre roman. Graham Greene a toujours fait quelque chose que j'aime aussi faire, mélanger les genres, mélanger l'atmosphère avec le suspense, écrire des romans qu'on peut pas mettre dans un seul tiroir. Il faut avoir plusieurs tiroirs pour Graham Greene.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du milieu bancaire suisse pour écrire ce livre?
Moi, je travaille toujours comme ça. Je ne cherche pas un thème ou un message. Je cherche toujours une histoire. Et je voulais trouver une histoire dans laquelle un hasard pas très probable ou deux hasards pas très probables se développent en quelque chose de très grand et de très dangereux, comme un champignon d'une explosion atomique. Ça commence très petit et ça devient très grand. Je pense pour pouvoir faire la fiction crédible, il faut que tout autour, tout ce qui peut être correct, doit être correct. J'aime toujours construire une base très réalistique pour après pouvoir décoller la fiction. Et aussi, pour vendre un mensonge, il faut l'envelopper dans quelques vérités. Une bonne histoire, pour moi, joue toujours avec la confirmation et la surprise. Les choses qu'on pense qui vont arriver, des fois doivent arriver et des fois pas. Il faut avoir ces surprises, il faut avoir ces secrets. La langue seule, pour moi, n'est pas toujours suffisante pour faire tourner les pages. Il faut aussi un secret, il faut des questions sans réponse. Il faut le suspense.
Nous allons vous entendre mettre en place ce suspense en vous écoutant lire les premières pages de Monte Cristo.
Monte Cristo, Première partie. Une secousse parcourut le train. Dans le wagon restaurant, verres et bouteilles dégringolèrent des tables, le sifflement assourdissant de la motrice et le couinement du fer sur fer se joignirent aux cris, au bruit de verres cassés et au tintement des couverts, jusqu'à ce que le silence revienne après un nouveau soubresaut. Dehors, l'obscurité était complète. Ils étaient arrêtés dans un tunnel. La voix du plaisantin du service perça le silence. « On est déjà arrivé ?» Il eut quelques éclats de rire, puis tout le monde se mit à parler dans le plus grand désordre et l'on commençait à éponger la bière et le vin répandus sur les tables, les vêtements, les sacs à main et les mallettes. « Arrêt d'urgence !» constata l'un des voyageurs. Jonas Brandt était assis au wagon-restaurant dans l'intercity de 17h30 pour Bâle, parmi une clientèle d'habitués des travailleurs pendulaires qui, chaque soir, avaient les mêmes discussions devant les mêmes boissons et depuis de nombreuses années pour certains d'entre eux. L'air était lourd des haleines alcoolisées, des costumes imprégnés de fumée, de la sueur et des notes de parfum masculin qui finissaient à s'éventer. Son voisin de siège obèse, qui avait réussi à préserver les éclaboussures d'ordinateur portable qu'il n'avait pas quitté des yeux pendant tout le trajet, soupira. Incident voyageur. Jonas se leva et attrapa sa sacoche qui contenait sa caméra. Il l'avait posée par terre à côté de lui. Et l'arrêt brutal l'avait fait glisser sur un bon bout d'allée centrale. Son caméscope n'avait pas souffert, bien qu'il ait comme toujours emballé avec une certaine négligence. Il savait ce que signifiaient les mots « incident voyageur ». Quelqu'un était passé sous le train. Jonas avait déjà vécu à quelques années plus tôt. Il sentit le même frisson le parcourir à nouveau des pieds jusqu'à la nuque. Plus loin, vers l'arrière du wagon-restaurant, quelques clients s'occupaient du serveur. Il avait une plaie au front et un passager tentait de stopper l'hémorragie avec une serviette. Personne ne fit attention au jeune homme blême qui entra par l'autre extrémité de la voiture en regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Il se fraya un chemin entre les tables jusqu'à l'autre sortie du wagon où était assis Jonas. Il faillit y télescoper la chef de bord qui venait de faire irruption en criant « Qui a tiré le signal d'alarme ?» C'est alors seulement qu'on remarquait le voyageur. C'est lui en effet qui répondit d'un « Moi » provocateur. La chef de bord le regardait sévèrement. Le jeune homme mesurait une bonne tête de plus qu'elle. Il portait un costume ajusté, le revers de son pantalon tombé au doigt au-dessus de ses chaussures pointues. Et pour quelle raison? Il se tenait maintenant à côté de Jonas et celui-ci vit à quel point il était livide et bouleversé. Le jeune homme bredouilla. Quelqu'un est tombé à l'extérieur. « Où ça ?» demandait la contrôleuse. « Là !» « Derrière, » répondit le jeune homme. Il désigna la direction d'où il était venu. Elle passa devant, il la suivit. Jonas prit sa caméra et sa grosse d'épaule dans le sac à dos et emboîta le pas aux deux personnages. Le jeune homme la guida jusqu'à la plateforme suivante. Il expliqua qu'il était en train d'y attendre que les toilettes se libèrent, qu'il regardait par la fenêtre et que, tout à coup, quelque chose avait volé devant lui, comme une grande poupée articulée, avant de rebondir contre le mur du tunnel. Il l'avait vu qu'un instant dans le faible éclairage dispensé par les vitres du train, mais il était certain que c'était un être humain, il avait un visage. Jonas avait à présent la caméra à l'épaule et tournait. « Arrêtez ça, je vous prie !» ordonna la chef de bord. Il lui montra sa carte presse sans cesser de filmer. Télévision, expliqua-t-il. La femme le laissa faire. Elle le précéda dans un wagon de deuxième classe où il ne restait plus qu'un seul siège de libre. Les voyageurs étaient aussi à leur place, résignés. Compte tenu de la présence du caméraman, personne ne demanda à la contrôleuse ce qui s'était passé. La porte suivante, celle qui donnait sur la voie, n'était pas tout à fait fermée. Quelqu'un avait déclenché le système d'ouverture d'urgence. Le chef de bord l'ouvrit entièrement, laissa entrer une odeur de roche humide et de limaille de fer. Jonas filma à l'intérieur du tunnel, faiblement éclairé par la lumière des compartiments. Il descendit d'une marche et dirigea son objectif à l'arrière vers l'extrémité du convoi. Au loin, dans le passage étroit qu'il séparait le train de la paroi du tunnel, on apercevait quelque chose au sol dans la lumière blafarde. Il ne pouvait pas dire de quoi il s'agissait, il n'avait pas le bon objectif. Un vidéoreporter un peu aguerri serait alors descendu et aurait filmé à une distance un peu plus courte le ballot qui reposait là-bas. Mais Jonas Brand n'était pas aguerri. Il n'était même pas un vrai reporter. Une succession de hasards l'a fait arriver dans cette profession. Une escale sur le trajet qui devait faire de lui un réalisateur de cinéma. Mais ce chemin-là, cela faisait un bon moment qu'il arpentait. Depuis son bac, pour être précis, il s'était brouillé avec ses parents et avait traîné depuis les plateaux de tournage en gagnant sa vie comme grouillot, aide-câbleur et chauffeur de production. Brand avait suivi un apprentissage d'éclairagiste et s'était hissé jusqu'au rang de best boy. L'homme a tout fait du chef d'éclairagiste. Avec l'argent qu'il y avait gagné, il s'était offert un stage de réalisateur à la London Film School, puis avait travaillé comme assistant opérateur. Ensuite, on trouvait dans sa filmographie quelques films pour le grand écran, une poignée de documentaires et toujours plus de spots publicitaires. On va plus tard voir que c'est le premier hasard qui déclenche cette explosion d'événements.
Quelle musique associée à l'écriture de ce livre, Martin Suter, Monte Cristo ?
Il y a une scène où le protagoniste rentre dans son appartement et il joue The Man in the Long Black Coat de Bob Dylan.
Long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat.
Est-ce que le parolier que vous êtes influe dans le choix des musiques, des chansons qu'écoutent vos personnages?
Oui, pour moi, j'écoute beaucoup de chansons en écoutant les paroles. Normalement, on se souvient des mélodies, mais moi, je me souviens des paroles. Je voulais cette prélude longue et je voulais une chanson triste parce que dans le livre, Jonas Brand ce disque était encore dans son stéréo parce que il avait une soirée triste où il avait bu un peu trop et il revenait quelques jours après. Le disque était toujours dedans. Il fallait que ça soit une chanson qu'on écoute avec un peu trop d'alcool.
Merci Martin Sutter. C'était Martin Sutter qui nous présentait son roman Monte Cristo, qui paraîtra aux éditions Bourgois. Les Bonnes Feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Éric Boisset.